Bonjour à tous.
Je veux saluer tout le monde et vous souhaite une bonne année au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour que les hommes et les femmes puissent expérimenter une nouvelle relation avec Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre. Jésus, comme on l'a déjà vu ce matin, a vécu en Palestine il y a 2000 ans. Il a parlé, beaucoup parlé, de pardon, d'amour, de guérison. Il a choisi et invité à le suivre une douzaine d'individus qui sont devenus ses disciples. Il a annoncé sa mort et sa résurrection. Il a également annoncé son retour sur terre. Les disciples et tous ceux qui ont reconnu que Jésus était effectivement le Messie envoyé par Dieu le Père se sont contentés d'attendre qu'il revienne en essayant de vivre l'Église d'une façon communautaire avec la mise en commun des biens matériels, l'organisation de la vie au quotidien dans une société hostile à cette nouvelle compréhension de la bonne nouvelle. Mais les années passent. Les disciples prennent un an chaque année, comme nous. Une génération avance en âge et une nouvelle génération, jeune, dynamique et motivée, confrontée à de nouveaux défis, se pointe à l'horizon. Jésus n'est pas encore revenu. Il est temps de mettre par écrit ce que Jésus a dit et fait. Malgré la bêtise et l'obscurantisme des autorités civiles et religieuses de son époque, malgré la foule versatile, tantôt enthousiaste, tantôt critique, tantôt carrément hostile à son enseignement. Dans un sursaut de lucidité, alors que les contemporains de Jésus arrivent au terme de leur existence terrestre, Matthieu, Marc, Luc et Jean mettent par écrit les souvenirs de cette époque exceptionnelle où Jésus, le Fils de Dieu, était physiquement présent à leur côté. Jean écrit à la fin de son évangile, Jean 21, verset 25, un verset un petit peu bizarre. « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde même, j'imagine, ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Alors, une cinquantaine d'années après que Jean a été témoin du ministère terrestre de Jésus, il rassemble ses souvenirs et les met par écrit dans son évangile avec moult détails et explications du contexte. Ce matin, justement, je vous propose la lecture de l'histoire de la guérison de l'aveugle de naissance. Évangile de Jean, chapitre 9, les versets 1 à 38. Au chapitre précédent, Jésus vient juste de polémiquer gravement avec les pharisiens, les autorités religieuses de son époque, en affirmant, Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus explique simplement qu'il vient du Père, qu'il fait partie de la promesse faite à Dieu, par Dieu à Abraham. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Jésus est descendant d'Abraham, et c'est par Jésus que l'alliance initiale de Dieu avec les humains s'élargit simplement à toute l'humanité. Propos insupportables à entendre par les autorités religieuses de l'époque. Jésus est chassé hors du temple avec des pierres et nous arrivons à notre récit du jour. Jean 9, les versets 1 à 38. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, donc qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et lui dire donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, qui dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. » Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi les parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Voilà un aveugle de naissance, privé de voir la lumière. Il perçoit le monde avec ses doigts, ses oreilles, son nez, sa langue, mais privé du bon fonctionnement de ses yeux, il est condamné à gagner sa vie en mendiant, assis là où les gens passent, dépendant de la générosité des passants. Ce n'était probablement pas la première fois que les disciples passaient à côté de lui, parce qu'apparemment, ils savaient que cet homme était aveugle de naissance. Ils auraient pu demander, en passant à côté de lui, combien on lui donne aujourd'hui ? Mais non, sans aucune attention vers la personne en situation de handicap, ils cherchent simplement à connaître l'origine, la faute, le péché, cause du handicap majeur du monde. Rabbi, maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? La question mérite d'être posée. Jésus aurait pu répondre en se référant à l'Ancien Testament et citer ce verset d'Exode 20, versets 5 et 6. « Moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Et également Exode 34, verset 7. « L'Éternel ne tient point le coupable pour innocent, mais il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Réponse parfaite et sans appel, puisque l'injustice qui frappe les parents et l'handicap qui frappe notre mendiant serait une espèce de malédiction héréditaire, conséquence d'une faute, d'un péché. Le besoin d'explication et la perspective d'une solidarité, d'une interdépendance dans le châtiment sont des idées trop profondément enracinées dans les consciences pour avoir disparu encore de nos jours. À regarder de plus près les terribles versets que nous venons de lire dans Exode 20 et Exode 34, la punition qui plombe l'avenir de la descendance concerne essentiellement les pratiques idolâtres, le fait de se tourner vers d'autres dieux, le fait de se détourner de l'Éternel. C'est là un exemple du danger de la citation hors contexte de certains versets bibliques, tout à fait pertinent pour culpabiliser, pour condamner, voire même pour amener une personne à ne plus jamais vouloir entendre parler de Dieu. Exode 20, le verset 6 rajoute, évidemment, « L'Éternel fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. » Et Exode 34, 6 et 7, « Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Dans Ézéchiel 18 au verset 20, nous lisons également, « Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. » Autrement dit, devant Dieu, la situation dans laquelle nous sommes en tant qu'adultes autonomes et responsables ne dépend que de nos propres choix et non pas du contexte familial et social dans lequel nous vivons et avons été élevés. Et voilà la réponse de Jésus concernant le mendiant aveugle. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. Antoine Louis s'écrit, face à une maladie, je peux toujours me poser la question de sa cause. Souvent, cela ne sert pas à grand-chose. Plus intéressante est la question de savoir comment je peux manifester les œuvres de Dieu jusque dans la maladie. Pour les disciples, la situation est figée. Les parents sont malheureux et affligés parce que leur enfant est né aveugle. Et devenu adulte, l'handicapé est condamné à gagner sa subsistance par la mendicité. Pour Jésus, la situation n'est pas définitive. Son intervention pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui, c'est la guérison. De la salive de Jésus, mélangée à de la poussière terrestre, pour former une espèce de boue, est appliquée sur les yeux malades. La salive, c'est ce qui sort de la bouche de Jésus. C'est comme les paroles de Jésus qui sortent de sa bouche. La poussière terrestre, c'est cette poussière à l'origine de la vie. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est donc ce mélange de ce qui sort de la bouche de Jésus avec cette poussière à l'origine de la vie qui a initié la guérison de l'aveugle-né. Le texte ne nous dit pas qui a accompagné l'aveugle vers le réservoir de Siloé pour qu'il aille se laver. Notre mendiant se débrouille pour obéir. Il devient acteur de sa propre guérison. Il se lève et répond en obéissant à la demande de Jésus d'aller se laver au réservoir de Siloé. Il recouvre la vue, les formes, les couleurs, les contrastes, la lumière, les ténèbres. Un monde nouveau comme une nouvelle création envahit la vie quotidienne de l'aveugle-né. C'est là le miracle de Jésus et l'œuvre de Dieu qui se manifeste. Se laisser toucher par les paroles qui sortent de la bouche de Jésus, paroles de pardon, paroles de paix, paroles de guérison. Ces paroles enlèvent nos aveuglements et nous permettent d'entrevoir un monde nouveau, une nouvelle création. Ces paroles nous font entrevoir les signes et les prémices du royaume de Dieu que nous appelons à venir. Notre texte du jour ne s'arrête pas là. Nous voilà revenus au cœur de notre humanité. L'aveugle mendiant assis retrouve une identité d'homme libéré de ses chaînes d'infirmité. « C'est moi », affirme-t-il. Sa guérison l'a changé. Il a été transformé en un homme debout, tête levée, actif, capable d'affirmer qui il est, pas de lui. Il assume son passé, sa guérison, et se projette dans son nouvel avenir. Jésus est intervenu dans sa vie, Jésus est entré en relation avec sa personne en lui appliquant un mélange de salive et de terre sur les yeux. Il a obéi à son ordre d'aller se laver au réservoir de Siloé et sa vue s'est rétablie. L'homme confesse que Jésus est intervenu. Ce Jésus qui venait de se faire chasser du temple à coups de pierre alors qu'il venait simplement d'essayer de faire comprendre aux pharisiens qu'il était le Messie attendu, le Fils de Dieu venu sur terre. La guérison miraculeuse divise les autorités religieuses. Pour les uns, un tel miracle prouve que Dieu est intervenu à travers l'action de Jésus. Pour les autres, le non-respect du sabbat, le repos du septième jour, une journée où rien ne devait être fait si ce n'est des activités rituelles liées à ce jour même, prouve que Jésus remet en cause l'autorité des religieux qui pensent que le respect strict de la loi, le légalisme, les justifie aux yeux de Dieu. L'homme guéri dit de Jésus qu'il est un prophète, pour faire allusion à Élie ou à Élisée qui ont fait des miracles pour manifester l'authenticité de leur vocation. Les pharisiens ont un doute sur l'identité de la personne guérie. Ils font témoigner ses parents. Belle leçon d'éducation, belle leçon de réponse aux autorités qui interrogent, en évitant de dire plus qu'il ne faut. Cet homme est vraiment notre fils, il est né aveugle. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler lui-même de ce qui le concerne. Et oui, les générations se succèdent, comme nous avons déjà évoqué, et arrive un moment où les parents s'effacent devant les enfants qui vivent leur vie et affirment leur propre identité. Dans le contexte, néanmoins, la question des pharisiens était tordue parce que nous lisons au verset 22, les juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un reconnaissait en Jésus le Christ, il serait exclu de la synagogue. Une parole de trop, une parole de travers de la part des parents, et il risquait d'être exclu de la synagogue avec comme conséquence une mise au banc de la société, une marginalisation, les ponts coupés avec la solidarité, l'isolement et l'exclusion sociale, une descente aux enfers, si j'ose dire, assurée. Un exemple de lucidité et de sagesse, de distance et d'absence de compromission devant les gens qui ont le pouvoir de nous laisser tranquilles ou de nous pourrir l'existence. Le fils guéri est à nouveau interrogé. Il a pris de l'assurance, le gaillard. Il s'en tient au fait. J'étais aveugle, maintenant je vois, et c'est Jésus qui a provoqué ma guérison. Il devient ironique, provoquant lorsqu'il répond aux pharisiens. Si mon histoire vous intéresse, c'est que vous voulez devenir disciple de Jésus. Jésus amène la guérison, et vous, les autorités religieuses, ne savez pas d'où il est. Ce que Jésus fait prouve qu'il est issu de Dieu. Les arguments font mouche, les pharisiens sont exacerbés, au bord de la crise de nerfs. Quand il n'y a plus de mots, il reste la violence. L'homme est chassé. Quelle situation banale. Lorsque les autorités sont interpellées, lorsqu'on commence à mettre en cause la légitimité de l'exercice du pouvoir, lorsque l'on touche aux intérêts de ceux qui exercent l'autorité ou de leurs comparses, lorsque la diplomatie ou la négociation s'enlise, il reste l'ultra-violence. Policière préventive, technique moderne de maintien de l'ordre. Les bombardements avec dommages collatéraux, les assassinats au hasard ou ciblés pour légitimer un engrenage de la violence institutionnelle et affirmer la force et la capacité de nuire des uns et des autres. Jésus est resté au centre du débat, mais dans le récit de Jean, il est physiquement présent au tout début de l'histoire jusqu'au moment où il applique la boue sur les yeux de l'aveugle et il réapparaît physiquement à la fin lorsqu'il entend que le miraculé a été chassé par les pharisiens. Jésus interroge l'homme guéri sur sa foi. Crois-tu au Fils de Dieu ? Qui est-il pour que je croie en lui ? Répond-il. Tu l'as vu ? Celui qui te parle, c'est lui. Quelle différence entre l'attitude des pharisiens qui convoquent le miraculé pour le piéger, lui faire regretter sa guérison survenue un mauvais jour pour finalement le chasser, et Jésus qui vient à la rencontre de l'homme, l'interpelle avec bienveillance et lui apporte la réponse à son interrogation. L'aveugle avait déjà reconnu Jésus comme prophète au verset 17, un homme qui vient de Dieu au verset 33, et il le reconnaît maintenant comme Seigneur, au verset 38. La guérison est aboutie, elle est totale, physique et spirituelle. L'entretien est bienveillant, empreint d'écoute et d'empathie. Celui qui a recouvré la vue se prosterne devant Jésus. Il reconnaît son humanité, sa fragilité et la grandeur, la puissance du Fils de Dieu. Bel exemple pour nous, bel exemple pour les disciples contemporains de Jésus, bel exemple pour Jean. Reconnaître que Jésus est Seigneur, accepter qu'il nous touche avec ses paroles, accepter de nous laver pour nous sortir de nos aveuglements, à nous de proclamer l'action de Jésus dans nos vies, y compris dans un monde hostile, pour finalement nous prosterner devant lui en toute humilité et conscient de nos limites. Nous voilà au début de 2020. Avons-nous besoin d'être touchés par les paroles de Jésus ? Avons-nous besoin d'entrevoir le plan de Dieu pour l'humanité qui est la restauration de toutes ces choses qui sont parties de travers depuis la création initiale, depuis le jardin d'Éden? Nous sommes tous des aveugles nés, du moins spirituellement. La société, que ce soit la société occidentale ou orientale, qu'elle soit au sud ou au nord, contribue largement à notre cécité. Les moyens de communication modernes contribuent largement à entretenir nos aveuglements. Une des grandes inquiétudes du moment, c'est l'avenir de la planète. Comme les disciples du temps de Jésus, les uns et les autres posent la question : qui est responsable ? À qui la faute ? Qui a péché pour en arriver là ? Changement climatique suite à la surexploitation des carbones fossiles, réchauffement progressif, fonte des glaces et montée des eaux, événements météorologiques extrêmes, plus fréquents et plus intenses, disparition d'espèces et réduction de la biodiversité. On cherche la faute. La génération au-dessus de nous. Notre génération ou la génération qui vient? Et si la réponse au problème de l'avenir de la planète était: ce n'est pas l'une ou l'autre génération qui a péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Que les hommes et les femmes de toute génération prennent conscience que ni la science, avec ses incertitudes et ses égarements, ni la technique et ses progrès, aussi impressionnants et spectaculaires soient-ils, ne nous affranchiront de notre condition humaine. Se laisser toucher par les paroles de Jésus, nous intéresser au plan de Dieu pour l'humanité, simplement reconnaître que Jésus est Seigneur, nous aidera plus, jour après jour, au cours de cette année, que de nous laisser enfermer dans la culpabilité de mauvais alloys ou dans l'inquiétude qui manque de courage quant à l'état du monde et son avenir dans lequel Dieu permet que nous vivions. Pour conclure, dans ce récit de Jean, Jésus est présent physiquement au début. Il applique le mélange de salive et de terre sur les yeux de l'aveugle et il réapparaît à la fin du récit lorsque le miraculé est chassé par les pharisiens. Les hommes restent entre eux. L'aveugle voit. Les voisins y croient ou pas. Les pharisiens sont divisés. Le miracle ne peut venir que de Dieu. Oui, mais le sabbat n'a pas été respecté. L'aveugle affirme son identité et interpelle les autorités religieuses avec ironie, voire même irrespect. Et l'issue est la réaction violente contre l'homme guéri qui est chassé. Jésus ne s'impose pas. Il agit avec bienveillance. Il répond à nos questions existentielles en élargissant notre champ de réflexion vers une nouvelle perception du monde qui nous entoure. Il nous laisse vivre notre vie. Et lorsque nous reconnaissons qu'il est le Fils de Dieu et qu'il vient à notre rencontre, nous pourrons dire : « Je crois, Seigneur, et nous l'adorerons. » Amen.